Allez, d'ici quelques instants, si Michel, le temps de se mettre un petit peu dans l'ambiance.
La terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, merci Mathéo de nous permettre d'être un petit peu dans l'ambiance et on est ravis de vous retrouver. En habitude, c'est à la fin du mois, mais on s'adapte à la fois à la vie de chacun. En tout cas, merci Michel d'être toujours présent. Michel Favré pour une nouvelle chronique.
Bonjour Joël.
Alors, nouvelle chronique. Alors, avant de se lancer, on rappelle, hein, même si je dis en préambule, qu'il y a un travail magnifique qui est fait parce qu'entre la présentation, l'isation des chroniques, elles sont toutes podcastées. On peut les retrouver, c'est le terme, bien sûr. C'est le jargon sur le site constellations-galaxies.org. Donc là, il y en a 74, Michel, et la 75e va arriver.
Cet après-midi ou demain, quand je récupère l'enregistrement à la fin de l'émission et le temps de le mettre en ligne sur le site. Dans la rubrique astronomie, il y a un choix dans le menu chronique audio radio.
Voilà, on le redira à la fin. Et tout de suite, Michel, vous allez commencer votre chronique. Et question d'actu, vous allez commencer par ça, avec notamment quelques nouvelles de Mars.
Voilà. Alors ce mois-ci, cette chronique donnera une plus large place à l'astronomie, avec l'éclipse prévue la semaine prochaine. Mais nous ne pouvons pas faire l'impasse sur quelques nouvelles importantes dans le domaine de l'astronautique, à commencer par les missions martiennes, car après la polarisation des médias sur l'américain Perseverance et les premières évolutions de son petit hélicoptère Ingenuity, on en avait parlé le mois dernier, c'est au tour de la mission chinoise Tianwen, je pense que ça se prononce 1, de retenir notre attention. Je rappelle à nos auditeurs que cette sonde, dont le nom signifie « question au ciel », a été lancée en juillet 2020 pour profiter de la fenêtre favorable au vol vers Mars près de l'opposition et qu'elle s'est placée en orbite martienne le 10 février dernier, juste après la petite mission Al Amal, Espoir, des Émirats arabes unis, et une semaine avant l'atterrissage spectaculaire de Perseverance à la surface de la planète rouge. Tianwen 1 est la première sonde martienne chinoise après la série de succès de leur sonde lunaire Chang'e. Pesant près de 5 tonnes, elle est composée d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover. Et son premier objectif est de valider les techniques dans les différentes phases d'une mission planétaire, mise en orbite, atterrissage, communication et contrôle à distance. Avec les 7 instruments scientifiques dont il est équipé, l'orbiteur d'environ 3 tonnes doit étudier la surface martienne, analyser sa composition ainsi que celle de son atmosphère et étudier son champ magnétique. Avec des images montrant des détails inférieurs au mètre, il devait aussi permettre de repérer un site favorable pour y poser l'atterrisseur. Celui-ci, largement dérivé des sondes lunaires Chang'e, s'est posé le 15 mai en douceur dans la région d'Utopia Planita, une vaste plaine de l'hémisphère nord, avec une procédure assez voisine de la mission américaine. Un freinage atmosphérique, puis descente sous parachute et phase finale avec des rétrofusées, sauf qu'elles équipent directement l'engin et pas l'espèce de grue volante chargée de déposer Perseverance au sol. Cette première pour la CNSA, l'agence spatiale chinoise, est une réussite, même s'il semble que la précision laisse à désirer avec un atterrissage situé à une trentaine de kilomètres du site visé. Je rappelle que jusqu'à présent, seuls les Soviétiques, avec notamment la première arrivée de la sonde Mars 3 en décembre 1971, et les Américains, des Vikings en 1976 jusqu'à Perseverance, ont réussi à se poser sur la planète rouge. La seule tentative européenne en 2016 s'étant terminée par le crash brutal de notre sonde Schiaparelli. L'atterrisseur de Tianwen 1, qui n'a pas de nom particulier à ma connaissance, semble équipé d'instruments scientifiques dont je n'ai pas trouvé le détail, mais il est surtout le support permettant de déposer le rover Zhurong, dont le nom provient d'une divinité chinoise du feu, et a été choisi comme celui de la sonde par la CNSA parmi les propositions faites par le public via l'application Baidu, l'équivalent chinois de Google. Il est largement dérivé des deux rovers U2 posés sur la Lune en 2013 et 2019 et pèse dans les 240 kg, donc un engin bien plus petit que Perseverance, plutôt comparable à Spirit et Opportunity de la NASA qui ont parcouru la surface martienne entre 2004 et 2018. Avec ses caméras, il doit bien entendu fournir des images de la surface martienne en haute définition, mais il est aussi doté de 6 instruments permettant de compléter ceux de l'orbiteur. Radar pénétrant le sol, spectromètre pour analyser la composition chimique, magnétomètre pour le champ magnétique et détecteur de particules. Alimenté par des panneaux solaires, il est conçu pour fonctionner 90 jours martiens, soit environ 3 de nos mois. Mais ce n'est sans doute qu'une durée minimum, car les missions américaines ont montré que les engins martiens avaient souvent une durée de vie bien plus longue, presque 15 ans pour Opportunity au lieu des 90 jours prévus. Zhurong peut nous transmettre ses résultats soit directement, soit en passant par l'orbiteur. Il nous a envoyé sa première image dès le 19 mai, un panorama en noir et blanc montrant la vaste plaine dégagée où il est, ainsi qu'une partie de l'atterrisseur sur lequel il se trouvait encore, avec notamment les rampes qui devaient lui permettre de rejoindre le sol, ce qu'il a fait le 22 mai, en restant toutefois à moins de 1 mètre. Malgré sa communication, beaucoup moins abondante que celle de la NASA, la CNSA a publié également une autre photo en couleur montrant le rover lui-même et deux vidéos illustrant la séparation de l'atterrisseur et de l'orbiteur, puis une image noir et blanc prise par la caméra de navigation du rover montrant l'atterrisseur et les rampes qu'il venait de descendre, ainsi que ses premières traces laissées par les roues à la surface de Mars. On trouve facilement ces photos et vidéos sur Internet, notamment sur le site de Ciel et Espace, la revue publiée par l'AFA, Association Française d'Astronomie.
Alors Michel, avez-vous quelques nouvelles aussi à propos des missions habitées et de Thomas Pesquet également ?
Alors concernant notre spationaute préféré, il n'y a pas grand-chose à dire puisque sa mission se poursuit comme prévu, sans événements particuliers notables ces dernières semaines, et qu'on en parle assez régulièrement dans les médias. Je voulais juste évoquer un incident récent qui illustre bien les dangers des missions spatiales et notamment la question des débris en orbite autour de la Terre que j'avais abordé à propos de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dont nous avions largement parlé le mois dernier. L'agence spatiale canadienne CSA a annoncé lundi avoir découvert sur des images du 12 mai la trace d'un impact sur son bras robotique, Canard d'Arme 2, qui équipe l'ISS. Même s'il semble assez mineur, il a endommagé la couverture thermique de cet équipement, utilisé pour déplacer Dextre, un robot destiné à manipuler et remplacer des modules externes, comme les batteries et les antennes. Pour le moment, son fonctionnement ne semble pas altéré et le programme des opérations au bord de l'ISS n'a pas été changé, mais la NASA et la CSA surveillent son comportement de plus près. Et à propos des futures missions habitées, je ne peux pas passer sous silence la réussite de SpaceX, d'Elon Musk, avec son vaisseau Starship. Après sa série de crashs et d'explosions des prototypes numéro 8 à 11 lors de leur essai en vol entre décembre et mars, la tentative suivante aura été la bonne, avec le SN15 qui a décollé le 6 mai dernier et monté à 10 km d'altitude avant de revenir se poser en douceur. En principe, un premier vol habité est prévu par SpaceX avant la fin de l'année. Je rappelle à nos auditeurs que ce gros vaisseau de 50 mètres aux lignes futuristes a été choisi en avril par la NASA pour son programme lunaire Artemis, car il pourra aussi se poser et redécoller de la Lune, plutôt que son concurrent direct, qui s'appelle Blue Moon, de la société privée Blue Origin de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, un atterrisseur beaucoup plus classique ressemblant au module lunaire du programme Apollo des années 1970. Pour atteindre la Lune, le Starship ne décollera pas de manière autonome de la Terre comme pour ses essais, mais il devra être propulsé par une fusée Super Heavy de SpaceX, un lanceur de 70 mètres de haut qui est encore en cours de construction, mais sauf erreur de ma part, n'a pas encore été testé à ce jour. Il ne s'agit pas d'un engin totalement nouveau, car il est dérivé du Falcon 9, utilisé actuellement pour propulser la capsule Crew Dragon vers l'ISS, comme le vol de Thomas Pesquet le 23 avril dernier. Sauf que ce sera une version bien plus puissante, avec 28 moteurs Raptor, ceux qui équipent le Starship, au lieu des 9 Merlin, deux fois moins puissants, qui équipent le Falcon 9 actuel.
C'est un espoir pour le grand radiotélescope d'Arecibo, Michel.
Alors, lors des précédentes chroniques en 2020, j'avais informé nos auditeurs des catastrophes qui se sont produites sur cet instrument gigantesque, hein, un des plus grands radiotélescopes du monde, si on le considère ceux possédant une antenne unique et pas un réseau de petites antennes, et bien connu pour avoir servi de décor à plusieurs films, dont la scène finale du James Bond GoldenEye en 1995, peut-être prémonitoire car on y voyait la grande nacelle de 900 tonnes suspendue par des câbles s'effondrer sur le réflecteur parabolique situé 140 mètres plus bas. Et après une première alerte en août 2020 avec la rupture de quelques câbles, le crash fatal s'était produit le 1er décembre dernier, endommageant environ un tiers de la grande parabole de 300 mètres de diamètre, la deuxième au monde depuis la mise en service du FAST chinois de 500 mètres en 2016. J'avais annoncé ici que la NSF, National Science Foundation, l'agence indépendante américaine qui le gérait, avait renoncé dès novembre à le réparer malgré ses 57 ans de bons et loyaux services en raison du trop grand risque que représentaient les travaux. Et bien entendu, l'effondrement de décembre n'a fait qu'aggraver le problème. Mais c'était sans compter avec l'obstination de certains Américains qui ne veulent pas laisser la Chine opérer le plus grand radiotélescope mono-antenne du monde avec son FAST, ni les Européens avec ALMA, le plus grand réseau d'antennes situé au Chili. C'est notamment le cas de l'Université centrale de Floride, ou UCF. Il faut savoir que si la NSF restait bien propriétaire du site d'Arecibo, depuis 2018, l'USF avait passé une convention avec elle afin de gérer l'observatoire et son personnel. Depuis février, Ramon Lugo, directeur de l'Institut spatial de l'UCF, défend un projet de radiotélescope de nouvelle génération, baptisé NGAT, pour Next Generation Arecibo Telescope, qui occuperait le même site, mais sans nacelle suspendue à des câbles, car la dépression parabolique serait couverte par plus de 1000 antennes de 9 mètres de diamètre. Un investissement de l'ordre de 500 millions de dollars qui permettrait de disposer d'un instrument plus moderne pouvant répondre à différents besoins d'exploration des planètes et du cosmos, comme par exemple la détection d'astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux pour la Terre, la recherche d'exoplanètes de type terrestre, l'étude des molécules prébiotiques dans l'univers ou l'observation du centre de notre galaxie que ne pouvait pas viser l'ancien radiotélescope. Malheureusement, la catastrophe s'étant produite en décembre n'a pas permis de boucler le dossier assez vite pour qu'il soit pris en compte dans le cadre de l'appel à projet décennal des académies américaines. Mais avec le soutien de plus de 2400 chercheurs dans le monde, enregistrés sur le site de l'Observatoire, il semble qu'il soit accueilli assez favorablement par la NSF. Il doit être discuté lors d'une conférence dédiée au futur d'Arecibo qui se tiendra du 4 au 28 juin. Le contexte de la compétition technologique sino-américaine semble assez favorable, avec les déclarations de Joe Biden souhaitant renforcer le budget de la NSF, ce qui devrait être débattu au Congrès américain cet automne. Par contre, par ailleurs, des donateurs privés, dont le fameux Elon Musk, ont indiqué vouloir participer au financement de cette reconstruction. Alors peut-être peut-on rêver d'un nouvel observatoire plus moderne sur l'île de Puerto Rico dans quelques années.
Alors toujours dans le cadre de l'actualité, vous allez nous parler d'une éclipse de soleil qui sera observable la semaine prochaine.
Alors en effet, jeudi 10 juin, il y aura une éclipse annulaire de soleil, mais malheureusement pour l'observer, il faudra se déplacer très au nord, au nord-est du Canada, dans le territoire du Nunavut, ou au nord du Groenland. Et plus on sera au sud, plus elle sera partielle, dans les 60% au nord de la Scandinavie, 40% en Écosse, dans les 20% au nord de la France et seulement dans les 10% pour notre région. Cela signifie que le limbe solaire sera masqué à seulement 10% de sa surface au maximum, c'est-à-dire vers midi. Mais si la météo est bonne, il ne faudrait pas bouder ce rendez-vous car la dernière éclipse partielle visible en France remonte à mars 2015 et il faudra patienter un an pour la prochaine. Le phénomène se déroulera de 11h15, quand la Lune commencera à grignoter le Soleil, jusqu'à 13h où il redeviendra entier. Si le ciel est assez dégagé, ou même en cas d'une légère couverture nuageuse laissant percer le soleil, on pourra l'observer facilement car il sera très haut dans le ciel, presque au sud, mais il faudra impérativement utiliser des protections, les fameuses lunettes spéciales éclipse, pour ne pas prendre de risques.
Alors justement, rappelez-nous les risques de cette observation et s'il y a des précautions à prendre.
Alors l'observation des éclipses est dangereuse pour les yeux en raison de la très forte intensité lumineuse du soleil, qu'on ne doit jamais regarder directement sans protection, encore moins pendant de longues minutes. Il faut donc se munir de lunettes spéciales pour éclipse qui ne laissent passer qu'une toute petite fraction de la lumière solaire, sans danger pour nos yeux, dans les 100 millièmes à peu près. De simples lunettes de soleil ne suffisent pas. Si on n'utilise pas un dispositif adapté, on endommage sa rétine de manière irréversible, c'est-à-dire qu'on peut devenir carrément aveugle. Et ce qui est très pervers, c'est qu'il n'y a aucune douleur pour alerter, car la rétine ne comporte aucun capteur de douleur qui signalerait le problème à notre cerveau. Le risque est encore bien plus grand avec un instrument optique qui concentre la lumière. On a tous fait l'expérience de focaliser les rayons du soleil avec une lentille pour mettre le feu à une feuille de papier, par exemple. Si on met notre œil à l'oculaire d'une lunette, d'un télescope ou même d'une simple paire de jumelles, il se passera exactement la même chose. On brûlera sa rétine. Il faut donc utiliser des filtres spéciaux pour équiper ces instruments. Et le plus simple serait de réaliser une observation aux instruments avec des astronomes amateurs qui possèdent les dispositifs adaptés et connaissent les techniques d'observation d'une éclipse sans risque. En Gironde, nos amis du club AG33, Astronomie Gironde 33, donnent rendez-vous au public intéressé sur le pré-communal de Socat de 11h à 13h si la météo est bonne bien sûr. Ils sauront prendre toutes les précautions nécessaires aussi bien pour l'observation de l'éclipse que pour le respect des règles sanitaires ayant reçu l'autorisation préfectorale requise. Je n'ai pas contacté les autres clubs de Gironde, mais sur le site de l'AFA, Association Française d'Astronomie, il n'y a aucune autre animation indiquée pour l'éclipse dans le département. Une dernière technique est possible si on ne dispose pas des protections nécessaires. Observer le soleil de manière indirecte, par exemple en faisant un petit trou dans un carton et en regardant l'image du soleil qu'il projette sur le sol, contre un mur ou sur une feuille blanche. Je mettrai sur le site Constellations et Galaxies quelques photos illustrant cette technique simple et sans risque.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio. Michel Favré pour sa 75e chronique astro. Et Michel va aborder le sujet, le thème du mois, les éclipses. Et un sujet que vous avez déjà évoqué d'ailleurs ici même.
Oui, alors effectivement, mais ce thème de mécanique céleste s'impose avec l'actualité et l'éclipse partielle de soleil de la semaine prochaine. Pour être honnête avec nos auditeurs, j'ai repris largement le thème déjà diffusé lors de la chronique numéro 51. C'était en février 2019, à l'occasion d'une éclipse lunaire. Le phénomène des éclipses a de tout temps fortement impressionné les hommes qui y assistaient, notamment les éclipses de soleil, avec ce qu'on appelle le soleil noir, le limbe solaire entièrement masqué par la lune, laissant alors apparaître les extensions de la couronne solaire dans une ambiance sombre, crépusculaire et refroidie. Mais les éclipses de lune ne sont pas en reste, avec notre satellite entrant progressivement dans l'ombre de la Terre, en s'assombrissant fortement et prenant une teinte rouge symboliquement très inquiétante. On a des traces historiques très lointaines, notamment par des astrologues chinois il y a plus de 4000 ans, en 2136 avant Jésus-Christ, si on veut être précis. Plus près de nous, en Grèce, celle de 585 avant Jésus-Christ aurait été prédite par Thalès de Milet. Et l'on retrouve dans la Bible ou d'autres textes religieux des descriptions de phénomènes qui ressemblent à des éclipses et que les historiens essayent d'identifier précisément pour améliorer la datation de certains événements.
Alors, une éclipse, justement, Michel, comment ça marche exactement?
Alors, je pense que presque tout le monde sait que pour qu'une éclipse se produise, il faut l'alignement plus ou moins parfait de trois astres. Soleil, Lune, Terre pour une éclipse de Soleil, qui se produit toujours à la nouvelle Lune, et Soleil, Terre, Lune pour une éclipse de Lune, qui se produit donc toujours à la pleine Lune. Comme le cycle lunaire, appelé lunaison, dure environ un mois, 29 jours et demi pour être précis, et que ça correspond à la révolution de la Lune autour de la Terre par rapport au Soleil, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une éclipse de Soleil et une de Lune à chaque lunaison, soit environ une fois par mois. Il n'en est rien car l'orbite de la Lune autour de la Terre ne s'inscrit pas dans le plan de l'orbite terrestre autour du Soleil, appelé écliptique, en référence aux éclipses qui se produisent toujours dans ce plan. L'orbite de la Lune est inclinée d'un peu plus de 5 degrés par rapport à ce plan, ce qui fait que la plupart du temps, la nouvelle Lune passe un peu au-dessus ou en dessous du Soleil dans le ciel. Et de la même manière, la pleine Lune rate un peu l'ombre de la Terre. Pour que l'alignement puisse être réalisé, il faut que la pleine ou nouvelle Lune se produise quand notre satellite est proche des deux points d'intersection de son orbite avec l'écliptique, qu'on appelle les nœuds. Et si nos auditeurs essaient d'imaginer cet alignement, on trouve de bons schémas sur Internet, notamment sur Wikipédia, il est clair qu'il se reproduira à nouveau à l'autre nœud qui se trouvera entre Terre et Soleil environ 6 mois plus tard, quand la Terre aura parcouru une demi-révolution annuelle. L'écart entre nouvelle et pleine lune étant d'environ 15 jours, délai insuffisant pour que la position du nœud ait beaucoup bougé, les éclipses vont généralement par paire, une de lune et une de soleil à 15 jours d'intervalle. Et ceci deux fois dans l'année à environ 6 mois d'intervalle. Comme cette année par exemple, en mai-juin puis en novembre-décembre. Il y a eu une éclipse totale de lune le 26 mai dernier, mais malheureusement observable que dans la zone pacifique, suivie de l'éclipse de soleil la semaine prochaine le 10 juin. Puis on aura de nouveau une éclipse de lune le 19 novembre, toujours dans la zone Pacifique Amérique, même si elle sera très partiellement visible au coucher de lune du côté de la Bretagne, suivie 15 jours plus tard d'une éclipse de soleil qui sera totale pour l'Antarctique. On a donc généralement dans les 4 éclipses par an, 2 de lune et 2 de soleil. Mais attention, elles ne sont pas forcément toutes totales. Certaines peuvent être partielles ou même annulaires quand la Lune trop éloignée de la Terre ne masque pas entièrement le limbe solaire et laisse voir un anneau lumineux autour d'elle, d'où ce nom. C'est le cas d'ailleurs de l'éclipse de la semaine prochaine au Groenland. Parfois, la configuration des positions près du nœud permet d'avoir une éclipse d'une sorte 15 jours avant et 15 jours après l'éclipse de l'autre sorte. Donc une série de 3 éclipses au lieu de 2. En étudiant ces cycles, les astronomes concluent qu'il peut y avoir jusqu'à 7 éclipses la même année, mais c'est plutôt rare. D'après ce que j'ai pu lire, cela s'est produit en 1982 et cela ne doit se produire que 2 fois au XXIe siècle, en 2038 et 2094.
Alors vous parlez de cycles étudiés par les astronomes, mais y a-t-il une reproduction régulière de ces séries d'éclipses ?
Effectivement, et ces séries sont nommées Saros. Le premier témoignage historique de ces cycles remonte aux Chaldéens, mais il semble qu'il s'agisse plus d'une sorte de calendrier lunaire. Selon la définition actuelle, la connaissance du Saros remonte à l'Antiquité grecque, aux époques d'Hipparque, de Pline l'Ancien, puis de Ptolémée, mais sous des noms différents. Certains croient d'ailleurs reconnaître ce cycle dans le fameux mécanisme d'Anticythère, un objet en bronze très endommagé, mais comprenant des engrenages, découvert dans une épave en 1901 entre des îles ioniennes et qui semblerait remonter au 1er siècle avant notre ère. Pour comprendre le Saros, il faut faire un petit calcul. La lunaison de 29 jours et demi est le mois synodique, c'est-à-dire la révolution de la Lune autour de la Terre par rapport au Soleil. Cela résulte en fait de la combinaison de la révolution de la Lune avec celle de la Terre autour du Soleil. Si on prend non plus le Soleil comme repère, mais les étoiles très lointaines, pour avoir la vraie période de révolution de la Lune autour de la Terre, on trouve 27,2 jours, qu'on appelle le mois draconitique. C'est à ce rythme que la Lune repasse à l'un des nœuds d'intersection de son orbite avec l'écliptique. Mais comme l'orbite de la Lune est une ellipse, sa distance à la Terre varie, ce qui produit des conditions différentes, par exemple une éclipse totale de Soleil ou une éclipse annulaire. Ce cycle de l'écart Terre-Lune est d'environ 27 jours et demi. Et je vous épargne son nom qui est assez compliqué. Donc pour retrouver exactement les mêmes conditions d'éclipse, il faut trouver des multiples de ces 3 cycles produisant la même durée. Et la réponse est le Saros de 6585 jours,3, soit environ 18 ans, 11 jours ou 10, selon le nombre d'années bissextiles, 7 heures et 43 minutes. Donc exactement la même éclipse se répète après 18 ans et 11 jours, le décalage horaire résiduel d'environ 8 heures, soit un tiers de la rotation terrestre, fait qu'elle ne se produit pas au même endroit, mais à environ 120 degrés de décalage en longitude. Cela explique que dans l'Antiquité, malgré la connaissance de ces cycles, il était possible de prédire la survenance d'une éclipse, mais sans pouvoir dire exactement où elle allait se produire, ce qui n'est pas très grave pour une éclipse lunaire visible de la moitié de la Terre, mais plus embêtant pour une éclipse totale de Soleil parfaitement visible uniquement sur la petite bande balayée par l'ombre de la Lune à la surface de la Terre. Il existe simultanément 40 cycles de Saros intriqués les uns dans les autres, et on les numérote pour s'y retrouver. Par exemple, en 2021, l'éclipse totale de Lune du 26 mai faisait partie du Saros 121, alors que la prochaine éclipse de Soleil, la semaine prochaine, est dans le 147. Celle de décembre est dans le Saros 152, alors que celle de Lune qui la précédera en novembre fait partie du 126. Un Saros se reproduit à l'identique plusieurs fois de suite, mais pas éternellement, car des plus petits écarts dans la mécanique céleste Soleil-Terre-Lune finit par les faire disparaître au profit d'un autre Saros différent. Mais ces périodes de reproduction sont très longues, allant de 1226 à 1550 ans, pendant lesquelles il y a un enchaînement régulier de dizaines d'éclipses de tout type, environ 70 en moyenne. Par exemple, la dernière éclipse totale de soleil visible en France le 11 août 1999 faisait partie du Saros 145, qui a débuté le 4 janvier 1639 et continuera à se répéter jusqu'au 17 avril 3009. Mais pas sûr qu'on sera là pour le vérifier.
Alors avec ces Saros, justement, est-ce qu'on peut prévoir des éclipses aussi loin dans le temps qu'on le veut ?
Alors oui et non. La prévision, oui, mais de quel type d'éclipse parle-t-on ? Un jour, il n'y aura plus d'éclipse totale de soleil. Ce qu'il y a de fascinant dans ce type d'éclipse, c'est que la Lune masque presque parfaitement le Soleil, alors que son diamètre est dans les 400 fois plus petit. Mais par une coïncidence heureuse, elle est aussi environ 400 fois plus près de nous, ce qui donne aux deux astres la même taille apparente dans le ciel. Cela ne se produit sur aucune autre planète du système solaire. Et c'est assez troublant de penser que ça a lieu ici, dans la période où l'humanité est là pour le voir, car ça n'a pas toujours été le cas dans le passé et cela cessera dans le futur. Nos connaissances actuelles du système Terre-Lune montrent que la Lune s'est formée beaucoup plus près de la Terre que sa distance actuelle, mais que, par ce qu'on appelle les effets de marée, qui freinent progressivement cette belle mécanique, la Lune s'est lentement éloignée de nous en ralentissant sur son orbite, comme le veut la deuxième loi de Kepler. Actuellement, c'est dans les 4 cm par an, ce qui n'est pas bien méchant, mais sur de longues périodes de temps, ça change tout. Il y a environ 2,5 milliards d'années, on estime qu'elle est à peu près 15% plus proche, donc aussi 15% plus grosse dans le ciel, et les éclipses totales de soleil ne pouvaient pas être aussi belles qu'aujourd'hui, car toute la partie basse de la couronne solaire était masquée par cette lune trop grosse. À l'inverse, si on se projette très loin dans le futur, on estime qu'il ne pourra plus y avoir d'éclipse totale de soleil car la Lune sera trop éloignée, donc trop petite, et ne masquera plus complètement le soleil. Il ne pourra y avoir plus que des éclipses annulaires. Mais nous ne sommes pas vraiment concernés car on estime que ça se produira dans environ 600 millions d'années. Donc à quelques centaines de millions d'années près, les éclipses totales de soleil, c'est uniquement ici et maintenant. Raison de plus pour ne pas les rater quand elles se produisent. Pour nos auditeurs qui voudraient prendre date et sont prêts à se déplacer en Europe pour les admirer, la prochaine sera le 12 août 2026 en Islande et au nord de l'Espagne, donc pas très loin d'ici, et ce sera et la suivante le 2 août 2027 dans l'extrême sud de l'Espagne. Et ce sera tout pour cette décennie. En France, il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2081 pour voir l'ombre de la Lune traverser notre pays sur une bande de totalité qui ira de la Bretagne à l'Alsace, un peu plus au sud que celle de 1999. Plus près de nous, on aura l'an prochain, le 25 octobre 2022, une éclipse solaire partielle, un peu plus spectaculaire que celle de la semaine prochaine, avec une occultation d'environ 20% sur la plus grande partie de la France. Et même 40% si on se déplace plus au nord, ou en Europe centrale, ou en Grèce. Et côté éclipse lunaire, après un cycle favorable à la zone Pacifique Amérique et défavorable à la France depuis 2019, notre tour reviendra dans un an, le 16 mai 2022, avec une éclipse totale visible à partir de 4h30, mais qui sera interrompue par le coucher de lune, puis le 22 octobre 2023, où le phénomène sera observable dans sa totalité, du début jusqu'à la fin.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute d'Odo Radio 91.3 FM, odoradio.fr et d'A+. On est toujours avec Michel Favré pour sa 75e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique avec le ciel du mois.
Voilà, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, hein, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org. Pour avoir les cartes du ciel correspondantes, hein, c'est difficile de monter à des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je dois le mettre à jour cet après-midi pour le mois de juin. En approchant du solstice d'été, le jour le plus long de l'année, nous sommes dans la période où la nuit survient le plus tard, avec en ce moment un soleil se couchant vers 21h40 et la nuit survenant vers 23h et même minuit pour avoir un ciel bien noir. À la fin du mois, ce sera encore 10 minutes plus tard. Autant dire que même le décalage du couvre-feu à 23h dans une semaine ne permettra pas la reprise des observations nocturnes et que les astronomes amateurs, sauf ceux qui disposent chez eux d'un ciel bien dégagé et pas trop voilé par les éclairages, doivent encore patienter jusqu'en juillet et la levée de toutes les restrictions. En cette fin de printemps, les constellations typiques de cette saison sont bien installées dans le ciel en début de nuit, avec le Lion au sud-ouest et la Vierge bien haute plein sud, surmontée par le Bouvier. Ces constellations sont faciles à situer, avec le Lion juste sous les pattes de la Grande Ourse et identifiables par les étoiles de sa crinière qui forment comme une faucille dans le ciel. Et en prolongeant l'arc de la queue de la Grande Ourse, on tombe sur l'étoile très brillante Arcturus du Bouvier, puis Spica de la Vierge, à partir desquelles on peut retrouver le motif de ces deux constellations. Si le ciel de printemps occupe une grosse moitié ouest du ciel, la partie est accueille déjà des constellations de l'été, avec Hercule, suivi par le fameux triangle de l'été en train de se lever, formé des trois étoiles les plus brillantes de cette région du ciel. Vega de la Lyre, la plus haute et la plus brillante, Altaïr de l'Aigle et Deneb du Cygne, la plus à l'est. Fin juin, en début de nuit, le lion sera sur le point de se coucher, la vierge au sud-ouest et toute la moitié est du ciel montrera les constellations de l'été, notamment le sagittaire et le scorpion près de l'horizon sud, avec la partie la plus lumineuse de la Voie lactée en train de se lever. Côté planète, Mars est déjà bien bas en début de nuit, près de Castor et Pollux, les deux étoiles principales des Gémeaux, avec lesquelles il formera un bel alignement mardi prochain, le 8 juin. Il se couche peu après minuit en ce moment, et même s'il se décale vers l'est jour après jour en rejoignant la constellation du Cancer, il se couchera de plus en plus tôt, vers 23h30 à la fin du mois. Il est progressivement rejoint par Vénus, qui nous revient dans le ciel du soir, surtout au crépuscule pendant ce mois de juin. Mercure n'est pas observable car trop proche du Soleil. Saturne et Jupiter, dans l'ordre où ils se lèvent, sont eux dans le ciel du matin jusqu'à l'aube, séparés par environ la largeur de une main et demie bras tendus. Ils se lèvent actuellement vers 1h30 et 2h30 et de plus en plus tôt, jusqu'à 2h plus tôt fin juin, c'est-à-dire 23h30 et minuit et demi. Avec cette configuration planétaire, il y aura donc peu de conjonctions ce mois. Si vous vous êtes levé tôt, vous avez pu voir hier matin la Lune gibbeuse assez proche de Jupiter, formant un grand triangle avec Saturne. Samedi 12, on pourra observer un fin croissant proche de Vénus au crépuscule, et le lendemain, dimanche 13, ce sera le tour de Mars d'être approché par le croissant. Puis il faudra patienter jusqu'au dimanche 27 pour voir une grosse lune gibbeuse proche de Saturne, puis le lendemain entre Saturne et Jupiter, et le mardi 29 près de Jupiter. Ce sera l'occasion de constater le déplacement rapide de la Lune par rapport aux étoiles et aux planètes, c'est-à-dire environ la largeur d'une main bras tendue chaque jour. Mais bien entendu, c'est l'éclipse partielle du jeudi 10 juin midi qui sera l'événement astronomique le plus marquant du mois, à observer si la météo le permet, mais obligatoirement avec les protections spéciales pour regarder le soleil sans danger. En juin, nous avons aussi un rendez-vous avec un événement du calendrier, le solstice d'été du lundi 21 à 5h32 et 11 secondes, si on veut être précis. C'est le jour le plus long de l'année, donc la nuit la plus courte, du moins dans l'hémisphère nord. Je rappelle à nos auditeurs que cette situation est due à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à son orbite, ce qui nous fait voir le Soleil au-dessus de l'équateur céleste au printemps et en été, en dessous en automne et en hiver. Le solstice d'été correspond au passage au point le plus haut de son trajet annuel apparent dans le ciel. Cette inclinaison est aussi la cause des saisons, et non les variations de distance Terre-Soleil comme on le croit souvent à tort. D'ailleurs, c'est autour du 5 juillet que nous sommes chaque année les plus éloignés du Soleil. Par convention, c'est le solstice d'été qui marque notre entrée dans cette saison, jusqu'à l'équinoxe d'automne fin septembre. Alors après le petit décalage de nos rendez-vous en début de mois dû aux restrictions de déplacement, et je dois dire aussi à mes rendez-vous de vaccination, nous nous recalerons à notre habituel dernier mercredi du mois à partir du 30 juin, date prévue pour la prochaine chronique.
Voilà, on aura le plaisir de vous retrouver à la fin du mois, Michel. Donc vraiment, merci pour ce travail, c'est la passion, mais beaucoup de travail. On va rappeler, bien sûr, le site constellationsetgalaxies.org, alors toujours actualisé, voilà, les chroniques astro, mais pas que, toute l'actu.
Disons, 90% du site est statique, puisqu'en fait, c'est un peu l'historique de l'association et de ses activités pendant une quinzaine d'années, enfin 13 ans à peu près, si on veut être plus précis. Mais la partie astronomie, je continue à la mettre à jour mensuellement avec justement les informations sur le ciel du mois. D'ailleurs, je donne un peu plus d'informations qu'ici parce qu'il faut des cartes et tout ça, c'est pas facile à la radio. Et bien sûr, la chronique. Chaque mois, je récupère l'enregistrement de la chronique et je le mets en ligne. Donc, on trouve la liste de toutes les chroniques depuis le début. C'était en septembre 2014.
Ça nous rejeunit pas. Hein.
Oui.
Mais heureusement que vous avez toujours l'enthousiasme.
Je m'amuse à calculer que la centième, ce sera en 2023. Donc
il faudra qu'on fasse un petit voyage sur Mars ou autre. On verra.
Et d'ici là, il y aura des grands événements, notamment normalement l'envoi du fameux télescope spatial JWST qui devrait bientôt arriver. Et peut-être qu'on sera pas loin de revenir sur la Lune, si on en croit les Américains.
Bon, on verra pour fêter
enfin,
la centième.
Bon, pour revenir aux chroniques, la liste elle fournit surtout un petit résumé en une ligne du contenu, ce qui permet éventuellement à des auditeurs qui seraient intéressés, à des visiteurs du site, de piquer des chroniques sur des sujets qui les intéressent. Bon, c'est sûr que toute la partie actualité, elle est un peu obsolète au bout de quelques semaines, mais par contre, les thèmes que je traite sont, on reste relativement durable, sauf s'il y a des nouvelles scientifiques qui viendraient changer les choses, quoi. Et ça n'arrive pas tous les jours.
Voilà, puis quand vous dites piquer, bien sûr, si quelqu'un est intéressé pour venir sur une des chroniques, hein, pour un événement, je sais pas, pour la réalisation de mémoires, qu'ils prennent quand même contact avec vous, bien sûr. Voilà, c'est un endroit intellectuel.
Pas de souci, puisque je suis en retraite, donc j'ai le temps de répondre aux sollicitations. Malheureusement,
attention, il ne faut pas dire ça, parce que tout le monde va vous solliciter.
Ces dernières semaines, j'ai eu quelques appels de centres de loisirs qui auraient voulu le planétarium pour cet été, mais le planétarium, il n'y en a plus. Donc je les adresse à mes collègues les plus proches quand ça peut marcher.
Très bien. Puis Michel, on se voit donc à la fin du mois et puis on aura d'autres rendez-vous avec la Nuit des Étoiles, hein, avec certaines associations que vous connaissez bien.
Bah, je pense que Corinne reviendra nous parler de ce que prévoit AG33 et peut-être d'autres représentants d'associations.
Je sais que Cap Science organise et j'ai entendu d'autres structures, mais on avisera.
Tous les ans. Et normalement, on devrait être tranquille puisque les mesures sanitaires devraient être levées. Beaucoup de Français seront vaccinés, peut-être aussi quelques touristes qui seraient dans la région. Donc pour le moment, j'ai encore eu un message de l'AFA, l'Association française d'astronomie, la semaine dernière par mail, qui pense pouvoir organiser enfin cette année des Nuits des Étoiles à peu près normales. C'est prévu du 6 au 8 août.
L'occasion d'en reparler, bien sûr.
Fin juillet, je pense.
Allez, merci beaucoup Michel pour cette nouvelle chronique. On se retrouve à la fin du mois et puis on va rester quelques instants dans l'ambiance. On va se réécouter ce magnifique générique.